Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Allez, avouons-le, lorsque l'on entend le mot « démocratie » aujourd'hui, on a l'impression d'avoir affaire à une civilisation disparue, un mode de gouvernement qui a existé peut-être par le passé, mais qui aujourd'hui semble malade. D'où vient ce sentiment? Est-il justifié? C'est à vous, Pierre Rosanvallon, que je pose la question. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Collège de France et vous publiez un ouvrage intitulé « Le bon gouvernement » aux éditions du Seuil. Un ouvrage qui débute par une phrase qui est formulée sans détour. Je la cite. « Nos régimes peuvent être dits démocratiques, mais nous ne sommes pas gouvernés démocratiquement. » D'où vient, selon vous, ce hiatus?
Ce hiatus, c'est celui de la distinction qui me semble fondamentale à faire entre ce qu'on pourrait appeler une démocratie d'élection et une démocratie d'exercice. Dans la démocratie, il y a deux dimensions. Une première dimension, c'est celle du suffrage universel, qui consiste à élire des représentants ou des gouvernants. Et jusqu'à présent, on avait essentiellement mis l'accent sur cette dimension. C'est-à-dire qu'on voulait, en quelque sorte, pour faire progresser la démocratie, c'était démocratiser l'élection. La démocratiser en faisant en sorte que les représentants soient plus proches des représentés. La démocratiser en mettant en place des procédures, comme par exemple récemment, celle des primaires, pour faire en sorte que ce ne soit pas simplement les petits groupes dans les partis qui choisissent les candidats. Faire progresser la représentation en organisant par exemple la parité, faire progresser la représentation également en essayant de réduire le nombre de mandats. Donc toute une réflexion et des pratiques sur la démocratie ont consisté à essayer d'améliorer l'élection. Mais même si l'élection est améliorée, une fois que l'élection a eu lieu, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est justement qu'on met en place des gouvernants, mais que la démocratie n'a jamais été réfléchie comme pratique gouvernementale. Et c'est en quelque sorte le déplacement de l'analyse que je propose dans ce livre. À côté de la réflexion sur le progrès du rapport entre représentés et représentants, il y a un nouveau champ de la démocratie qu'il faut explorer. C'est celui des liens entre gouvernés et gouvernants, et c'est celui qui détermine beaucoup plus fortement peut-être que le premier, l'insatisfaction ou le désenchantement des citoyens.
C'est un livre donc qui débute par un constat assez sévère sur l'état de la démocratie. Auriez-vous fait un constat aussi sévère il y a quelque temps? Selon vous, la situation a-t-elle empiré, Pierre Rosanvallon?
Je crois qu'elle a empiré de deux façons. Elle a empiré d'une première manière parce qu'effectivement, ne serait-ce que la simple première démocratie que j'ai appelée électorale, elle a régressé parce que les partis se sont rétrécis. Les partis sont devenus des partis de professionnels de la politique, d'une manière ou d'une autre, et que donc les partis sont moins proches de la société. Pensez que chez les communistes, il n'y a plus qu'un seul député d'origine ouvrière. C'est quand même un changement absolument fondamental. Donc, du simple point de vue de la démocratie électorale, il y a eu régression à cause de ce repliement des partis sur eux-mêmes qui sont devenus des professionnels. Mais s'ajoute un deuxième type de régression. Ce deuxième type de régression, c'est le fait que nous sommes entrés dans des démocraties présidentielles. Ce qui est devenu le cœur du pouvoir, c'est l'exécutif. Or, la démocratie n'a jamais été pensée comme exécutif. Et le but de ma réflexion, c'est d'ouvrir à la fois un champ à la réflexion sur la démocratie, en disant « faisons rentrer l'exécutif en démocratie, en quelque sorte, et considérons la question que nous sommes passés d'un pouvoir que j'appellerais parlementaire représentatif à un gouvernement, à une forme de démocratie présidentielle gouvernante. Et c'est elle qu'il faut faire rentrer en démocratie.
Mais il y a un paradoxe tout de même, puisque vous évoquez donc évidemment la date, la rupture majeure que représente l'élection du président de la République en France au suffrage universel. Auparavant, le système des partis ne fonctionnait pas mieux, Pierre Rosanvallon.
Il ne fonctionnait pas mieux, mais les partis étaient tout de même un petit peu aux couleurs de la société d'une manière ou d'une autre. Les partis de droite représentaient le monde des commerçants, parfois des artisans, des professions libérales, des notables traditionnels. Et la gauche, d'une manière ou d'une autre, représentait les milieux populaires, les instituteurs, les fonctionnaires. Et donc, par la composition même des partis, par la détermination de leurs députés, lutter. Ils étaient tout de même un peu plus aux couleurs de la société. Et ça, ça s'est étiolé depuis à peu près une vingtaine d'années. Et le fait que ce soit étiolé se traduit par l'abstention croissante, la désaffection des citoyens pour les urnes.
Vous évoquez les partis et c'est la période des universités d'été des partis. Ce week-end, il y avait l'université d'été du Parti Socialiste à La Rochelle. Quel regard l'intellectuel que vous êtes pose sur ces phénomènes, sur ces événements? Est-ce qu'ils vous intéressent?
Je dois dire non. Ce qui est très frappant, c'est qu'il y a sûrement une dizaine d'années, cette rentrée politique, on était un petit peu aux aguets. Là, maintenant, on a l'impression un peu d'un jeu en circuit fermé. J'ai d'ailleurs été très frappé, en regardant hier soir les images à la télévision, de voir le petit nombre de personnes qui étaient présentes. Il y avait peut-être 200 ou 300 personnes pour écouter le Premier ministre. C'était très peu. On a un peu l'impression d'un jeu qui se joue à guichet fermé. Et donc, on parle d'autre chose que ce qui se passe dans la société. On parle du prochain congrès, on parle de l'organisation des prochaines élections. C'est uniquement des enjeux internes.
Alors, il y a justement une expression en sociologie politique. On la doit à Max Weber, qui distinguait ceux qui vivaient pour la politique et ceux qui vivaient de la politique, dans le constat extrêmement sévère que vous dressez sur la classe politique. Pierre Rosanvallon, peut-on dire que les hommes politiques qui nous gouvernent aujourd'hui sont uniquement des stipendiés, des salariés de la politique et que finalement aucun idéal ne les anime ?
Je n'irai pas jusqu'à dire qu'aucun idéal ne les anime, mais il y a un fait sociologique. Le fait sociologique, c'est qu'un nombre croissant d'élus importants ont fait carrière en politique. Ils ont été des jeunes assistants parlementaires, ils ont été permanents de mouvements de jeunesse, ils ont commencé par des syndicats étudiants proches d'un parti. Pour eux, la politique, c'est leur métier. Et donc, ils naviguent à l'intérieur de ce métier dont ils s'estiment un peu propriétaires. Et là, effectivement, il y a une grande différence entre, je dirais, le militantisme traditionnel, qui était l'investissement d'un certain nombre de passions, d'un certain nombre de choix, d'une volonté d'engagement, d'être au service de la société, qui aujourd'hui aurait l'idée de rentrer dans un parti politique pour faire un engagement au service de la société. Ceux qui rentrent, c'est qu'ils veulent faire, le plus souvent, une sorte d'engagement au service d'eux-mêmes, si je puis dire, même si je ne veux absolument pas stigmatiser la classe politique dans son ensemble. Je fais un constat sociologique. Qu'il y ait des personnes qui essaient d'en sortir, qui essaient de faire autre chose, certainement. Et il ne faut pas aller trop loin, si je puis dire, dans la critique, parce que sinon, on vire rapidement dans la ritournelle tous pourris du populisme, qui me semble aussi catastrophiste que la bonne critique.
Je viens de citer Max Weber, qui est un sociologue que vous discutez beaucoup dans cet ouvrage « Le bon gouvernement » que vous publiez aux éditions du Seuil, Pierre Rosanvallon. Max Weber, qui est notamment connu pour une conférence qu'il a prononcée en 1919 sur le politique et sur le métier du politique. Une conférence qu'il a prononcée devant des jeunes gens en Allemagne qui sont probablement devenus, pour un certain nombre d'entre eux, membres du parti nazi. Et on voit bien que le problème central qui se pose aujourd'hui pour le politique, c'est la question du charisme en politique. Cette question, aujourd'hui, elle se pose notamment parce qu'on a l'impression que nos hommes politiques manquent terriblement de charisme. Et dans les développements que vous faites sur le général de Gaulle, il y a notamment là l'impression que quelque chose s'est évaporé.
Oui, on peut avoir le sentiment d'une banalisation du charisme. Mais si l'on regarde l'histoire, les personnalités qui ont été des personnalités marquées d'un grand charisme dans l'histoire française, anglaise ou allemande restent tout de même statistiquement relativement limitées. Et je crois qu'il ne faut pas trop, en quelque sorte, insister sur cette dimension du charisme. Il y a une banalisation, je dirais, du charisme qui me paraît aussi nécessaire dans la démocratie. La démocratie doit aussi fonctionner avec des personnalités dévouées et normales, dévouées et compétentes, mais pas forcément des espèces d'images du commandeur. Et je trouve qu'aujourd'hui, le fait de passer son temps à se remémorer les figures de Churchill ou de Gaulle, c'est une façon un peu négative de voir l'avenir. Il vaudrait mieux réfléchir à la façon dont des gouvernants peut-être plus ordinaires sont, à cause de procédures existantes, portées à faire des choses au service de la société.
Et c'est ce que vous faites en évoquant une démocratie d'exercice. Comment celle-ci pourrait fonctionner concrètement, Pierre Rosanvallon ?
Alors, le but de ce livre, c'est d'ouvrir un champ à la compréhension de la démocratie, de passer d'une simple compréhension analyse de la démocratie d'autorisation à la démocratie d'exercice. Mais je voudrais aussi, évidemment, ouvrir pas simplement un champ, mais un chantier. Et ouvrir un chantier, cela veut dire commencer à réfléchir à des institutions. Mais je ne voudrais pas que cette réflexion fondamentale soit en quelque sorte polarisée par l'attention sur les solutions techniques. Je ne fais pas de l'ingénierie constitutionnelle, même s'il me semble qu'on voit aujourd'hui qu'ont existé déjà ou mis en place un certain nombre d'institutions qui doivent jouer un rôle majeur. Je prends une seule exemple. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, que dirige Jean-Louis Nadal, qui a été créée dans le sillage de l'affaire Cahuzac, a joué, me semble-t-il, un rôle extrêmement positif. Alors que la Commission d'accès aux documents administratifs, qui théoriquement devrait organiser la lisibilité et la transparence, elle ne fonctionne pas très efficacement.
Vous dites que vous ne faites pas d'ingénierie constitutionnelle, mais dans le même temps, vous dites aussi que la dérive française, elle provient de l'élection depuis 1962 du président au suffrage universel. N'y a-t-il pas là une contradiction ? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer à une 6e République, Pierre-Rose en Vallon ?
C'est un point fondamental de l'analyse. Quelle est la cause de ce mal-gouvernement ? Est-ce que la cause de ce mal-gouvernement, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel, ou est-ce que c'est l'encadrement, en quelque sorte, de l'action gouvernementale ? Je pense que ceux qui se contentent de parler d'une suppression de l'élection du président au suffrage universel, et c'est un thème que l'on voit très fréquemment développé par les partisans de la 6e République, mais par beaucoup d'autres personnes aussi, en parlant du poison et de la malédiction présidentielle. Je pense que l'élection de l'exécutif au suffrage universel, elle a des vertus. Et on voit bien que c'est l'élection tout de même qui retient le plus d'attention des citoyens. Elle a des vertus parce que ça oblige à l'exercice de la responsabilité et ça donne un autre sens à la volonté. Mais cette élection seule, c'est cela qui pose problème dans la démocratie. Le problème n'est pas l'élection présidentielle. Le problème est que l'élection présidentielle soit le point final qui est mis à une certaine conception de la démocratie. Et c'est ce qui fait qu'on voit dans de nombreux pays, regardons la Turquie d'Erdogan, regardons la Russie de Poutine, où le suffrage universel a été le moyen de mettre en place une forme de nouveau césarisme. Et donc, il y a cette potentialité illibérale dans le présidentialisme, mais remédier à cette potentialité illibérale, ça n'est pas par la suppression de l'élection présidentielle, c'est par l'organisation plus contraignante de ce rapport entre la société et le pouvoir exécutif.
Mais alors, y a-t-il des pays vers lesquels on pourrait regarder, Pierre-Rose en Vallon, pour s'inspirer de ces pays, pour essayer de trouver un système politique qui fonctionne mieux ?
Je ne pense pas que l'on puisse dire aujourd'hui qu'il y ait de modèle. Et même l'Europe est difficile à analyser parce que l'Europe, c'est plutôt le conservatoire des formes du passé. Il y a tout de même encore 7 monarchies en Europe. C'est un cas unique au monde, si je puis dire. Et puis tous les pays qui viennent des dictatures ont choisi un parlementarisme de façade très traditionnelle. Même si dans les faits, même un pays très parlementaire comme la Grèce, on votera pour ou contre Tsipras, comme en Angleterre, on votait pour ou contre Cameron, ou en Angleterre, pour ou contre Merkel. Donc même dans les pays qui ont une apparence de parlementarisme, il y a une forme de ce qu'on pourrait appeler un présidentialisme masqué.
Mais alors si le mal est général, provient-il d'un aspect constitutionnel ou bien provient-il par exemple du poids de la finance, par exemple du poids des inégalités ? N'est-ce pas là que se situe tout simplement la cause de ce sentiment que la démocratie nous file entre les doigts ?
La démocratie nous file entre les doigts parce que la démocratie peut se définir de deux façons différentes. Pour simplifier, la démocratie, elle est un régime politique et la démocratie, elle est une forme de société. Et il est vrai, j'exposais cela dans mon livre précédent, « La société des égaux », que la société démocratique, elle est décomposée par les inégalités. Car la promesse de la démocratie, c'est faire monde commun. Mais la démocratie est à la fois forme de société, mais à la fois régime politique. Et c'est ce régime, je dirais, du pouvoir exécutif qu'il faut maintenant faire rentrer en démocratie. C'est le deuxième volet, en quelque sorte, de l'action. Aujourd'hui, agissons pour réduire les inégalités et faire une société plus démocratique, mais agissons aussi pour faire un gouvernement plus démocratique.
Alors, puisque vous faites beaucoup le lien, Pierre-Rose en Vallon, dans Le Bon Gouvernement, le livre que vous publiez aux éditions du Seuil, entre ce poids de l'exécutif et le fait qu'il est aujourd'hui incarné par un homme, est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, aller vers d'autres solutions, choisir le premier venu, comme disait Baudelaire, puisqu'il est mort un 31 août, le premier venu, par exemple, par le biais du tirage au sort ?
Le tirage au sort a tout à fait sa place en démocratie. Quel est le propre du tirage au sort ? C'est que le tirage au sort détermine le quelconque. Si on veut mettre en place, par exemple, un jury criminel, on va tirer au sort, parce que le principe est que n'importe qui a la même capacité pour discerner si quelqu'un est coupable ou non coupable. Et il y a un usage certainement nouveau à faire du tirage au sort, après tout, à sa façon. Un sondage, une enquête, c'est du tirage au sort. On prend un échantillon, c'est-à-dire justement représentatif, mais c'est quelque chose de tiré au sort. Et on pourrait tout à fait concevoir un tirage au sort qui ait plus d'importance dans l'ordre, par exemple, de la constitution de jury citoyen ou d'assemblée délibérative. Mais élire un président à la place de l'élection d'un président, le tirer au sort, ou un ministre des Finances, ce serait peut-être beaucoup plus hasardeux. Personne ne le discutera, je pense.
On a beaucoup parlé de démocratie participative. On a espéré qu'Internet pouvait constituer une voie. Que pensez-vous de ces hypothèses ?
Il est certain que Internet, pour la première fois, représente l'opinion en tant que force matérielle. Jusqu'à présent, l'opinion n'avait existé que représentée. Représentée par des grandes figures, représentée par des journalistes, représentée par des sondages. Là, on voit l'opinion exister de façon brute. Et on voit quand elle existe de façon brute, d'une manière ou d'une autre, il faut pouvoir la catalyser. Il faut pouvoir lui donner sens. Sinon, c'est un brouhaha généralisé.
Merci Pierre Rosanvallon, on vous retrouve tout à l'heure, vous serez rejoint avec Karine Berger qui est donc députée socialiste et Virginie Calmel des Républicains. On évoquera avec ces deux jeunes députés l'état de la démocratie.